belle grosse dernière demi-heure pour vous, Matins éphémères. Caroline Stephenson avec vous ce matin. On va parler d'un plaidoyer pour le zéro déchet. C'est un mouvement que vous entendez de plus en plus. On en parlait la semaine dernière. Et là, il y a des résidents de la capitale, capitale nationale, qui ont décidé de se regrouper pour faire pression. C'est un mouvement. On veut faire pression sur la mairie pour qu'elle change de cap et qu'elle abandonne en quelque sorte son incinérateur à poubelle et développe peut-être un peu plus là sa stratégie zéro déchet. Alors ce matin, on va en parler avec deux personnes, Yvan Ouellette qui est chimiste et Mathieu Goulet qui est co-président des Amis de la Terre et membre du mouvement Une ville zéro déchet. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour. Yvan, là j'ai dit chimiste mais aussi chargé de cours à l'UQAR.
À l'UQAR au campus de Lévis.
Exactement. Bon, voilà. Alors, on est bien situé. Je dis un dossier dont on va parler ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce regroupement-là et sur ce que vous voulez finalement. Alors, je vais commencer avec Mathieu Goulet qui est, je le disais, là, co-président des Amis de la Terre et aussi membre de ce mouvement-là. Mathieu, d'abord, qu'est-ce que c'est le zéro déchet? On va parler du zéro déchet, puis après, on parlera du côté plus technique avec Yvan là, de l'incinérateur. Mais d'abord, parle-nous de ce mouvement-là ou du zéro déchet. On en entend de plus en plus parler, j'ai l'impression.
Oui, l'idéologie zéro déchet encourage à repenser les cycles de vie des ressources pour que tous les produits soient réutilisés, qu'il n'y ait pas de gaspillage. En fait, c'est une ligne directrice pour changer les modes de vie et les pratiques afin de calquer les cycles naturels durables dans lesquels les matières abandonnées redeviennent des ressources. Ça implique de designer et de gérer les produits et processus pour systématiquement minimiser le volume et la toxicité des matières réelles.
Ouais, bon. Alors, tu nous dis tout ça, mais ce serait pas... Bon, on est là-dedans, on essaye d'acheter en vrac. Est-ce que c'est encore une utopie aujourd'hui ou ça ne l'est plus, là, j'ai l'impression?
Oui, bien, c'est ça. Ben, ça, c'était la définition. En fait, ouais. On tend vers le zéro déchet. C'est un objectif parce que la Terre
moi,
possède...
Moi, je fais des gros efforts, mais j'y arrive pas tout à fait, là.
Bien, c'est qu'on veut s'approcher de là. Dans le fond, on veut réduire l'extraction des matières premières. Et puis, donc, tout ce qui pourrait être réutilisable, recyclable, réutilisé, c'est par là qu'on va passer. Dans le fond, à Québec, c'est particulier parce qu'on a un incinérateur. Puis, l'incinération détruit les matières premières qui composent les déchets. Fait que ça fait aussi disparaître les moyens pour les extraire, pour aller les chercher dans l'environnement, puis dans le fond, les retransformer en biens consommables. Dans le fond, ça oblige à repartir le cycle au complet, donc aller puiser les matières, les transformer, puis en finalité, s'en débarrasser.
Oui, beaucoup d'énergie gaspillée, beaucoup de choses gaspillées. Alors, comment le mouvement pour une ville zéro déchet est différent? Comment vous positionnez-vous dans tout ça?
C'est que il y avait beaucoup de groupes, dans le fond, qui existaient déjà au niveau des initiatives individuelles. Nous, ce qu'on veut, notre mouvement, en fait, c'est une initiative au niveau municipal, au niveau collectif. On veut pas remplacer les groupes individuels, mais on veut faire de zéro déchet un objectif commun au terme des citoyens, puis il faudrait qu'ils se sentent interpellés. Ce qu'on veut aussi, c'est dénoncer les mauvaises pratiques lorsqu'on en a conscience. Par exemple, ce que Yvan va parler, les dépassements des normes environnementales.
Ouais.
Et puis, on veut faire une pression collective, dans le fond, pour que les citoyens, autant les commerces, les industriels, les institutions, que tout le monde tende vers zéro déchet.
Oui, parce qu'on le sait, individuellement, on est un peu là-dedans, on essaie d'acheter en vrac, il y a de plus en plus de magasins vrac, alors ça, c'est possible de réduire son empreinte écologique en achetant moins ou en faisant, il y en a qui sont un peu plus, moi je les admire, là, je suis pas rendue là à faire mon shampoing, mon savon, tout ça pour pas acheter de bouteilles de shampoing, mais collectivement, donc il y a des choses à faire pour réduire les déchets finalement. Mathieu, dis-moi donc, Pour que ça fonctionne, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on pourrait faire collectivement pour que ça fonctionne?
Bien, collectivement, ce qu'il faut faire, c'est réduire. Réduire, c'est vraiment l'idéal. C'est là que tout démarre, en fait. C'est diminuer à la source la consommation. Il n'est pas nécessaire de tout posséder, là, le dernier téléphone ou la dernière voiture ou les dernières choses. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est...
Moins consommer, là, ouais. Ça se résume à ça, finalement.
C'est ça. c'est aussi par la simplicité volontaire. C'est ça. Donc, de diminuer sa consommation. Après, on peut réutiliser les choses. De diminuer la quantité des choses qui devraient être remplacées. Donc, d'acheter peut-être des meilleurs produits.
Excuse-moi, je te fais une parenthèse, mais ce n'est pas tout à fait recyclé. Là.
C'est pas
réutiliser, ce n'est pas encore recyclé.
C'est ça. Dans le fond, c'est pour que les produits durent plus longtemps. Ben, on peut en acheter des meilleures qualités. Là. Peut-être les vêtements, là, ça en est un bon exemple. Et puis après, ben, partager, remettre en circulation les objets usagés, par exemple dans les friperies ou Kijiji ou n'importe quel site de partage de matériel usagé. Ou sinon, on peut partager des lieux, là, comme j'ai la patente ou Vélocentrix là, qui se trouve être un lieu.
Des espaces de coworking, il y en a de plus en plus, on voit ça. Ouais. Ça commence à être bien populaire et avec raison aussi. Quoi faire avec les matières résiduelles, Mathieu? C'est une grande question, ça.
Oui, OK. Il y a plusieurs graduations de ça. Là. Donc, la première, c'est d'extraire, dans le fond, tout ce qui est recyclable ou revalorisable. Là, on est avec les déchets, les trucs qui sont ramassés soit dans nos maisons ou aux éco-centres. Et puis, après, les déchets qui restent, c'est des déchets ultimes. Comme je disais, la Ville de Québec a un incinérateur et puis le but de l'incinération est de tenter d'éliminer les déchets. Or, rien ne se perd, rien ne se crée. Là, on reste avec la même quantité de matière. On fait juste la transformer pour réduire le volume solide, mais on ne réduit pas la toxicité.
Ouais, c'est ça le problème. Et quand on parle d'incinérateur, qu'est-ce qui va à l'incinérateur? Tout ce qu'on n'aura pas recyclé, tout ce qui... Parce qu'on composte pas... En tout cas, je sais pas, il y a peut-être des secteurs où on ramasse le compostage, mais à Québec, c'est pas partout le compost. Qu'est-ce qui se retrouve à l'incinérateur?
Bien, à l'incinérateur, en fait, il se retrouve tout ce qui se trouve dans nos poubelles. Et puis, tout ce qui est, genre, de mauvaise façon, mis dans le recyclage aussi, là. C'est pour ça que c'est super important de bien séparer, dans le fond, ce qui peut être recyclé ou revalorisé. Parce que ce qui est mis dans les bacs va être trié au centre de tri manuellement. Donc, c'est une job qui est quand même difficile. Là. Les travailleurs voient sur un espèce de gros convoyeur, ramassent les déchets de tout ce qui ne devrait pas être dans cette zone-là. Dans la cueillette hebdomadaire de déchets recyclés, ben là, je fais juste un rappel aux citoyens.
Ben oui, allons-y, qu'il faut se le rappeler, t'es à l'occasion.
Ouais, donc tout ce qui est en métal, donc les boîtes de conserve, bouchons métal, papier carton, là, on parle d'emballage, sinon on parle de papier journal, de circulaire. Sinon, ben là, les nouveautés, c'est que les contenants multicouches, là, donc les Tetra Pak et compagnie, sont aussi, on peut les mettre dans le bac bleu. Les plastiques qui sont identifiés de 1 à 7 sont assurément recyclables. Sinon, les plastiques qui ne sont pas identifiés, il faut les regrouper, mettons, faire un sac de sacs et mettre ça dans le bac. Les sacs qui sont volants tout seuls, là, ça crée
de la difficulté. C'est ça. Puis on imagine au centre de tri que c'est bien compliqué, tout
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Qu'en est-il des bouteilles, des verres? Est-ce que les couleurs ont de l'importance, les bouteilles? Bon, là, on sait que la SAC ne consigne pas encore ses bouteilles de vin. Est-ce qu'on trie par couleur? Je sais qu'en Europe, nous, en Suisse, on triait par les bouteilles de verre brun, vert, transparent. Est-ce qu'ici, c'est le cas?
Ben, on ne trie pas encore par couleur. Puis les Amis de la Terre incitent grandement la SAQ, là, dans le fond, de faire la consigne sur les bouteilles. Par contre, ce qui est important, c'est les bouteilles de bière et puis les contenants qui sont consignés. Ce serait beaucoup, beaucoup mieux, dans le fond, de les retourner aux endroits qui prennent les consignes. Les autres bouteilles, on n'a pas nécessairement les traîner par couleur, sauf qu'il ne faut pas que ce soit du vert qui est cassé. Il ne faut pas que ça soit des choses qui pourraient amener des blessures aux gens qui vont les manipuler.
Il faut toujours penser qu'il y a des humains qui sont derrière ça. Il y a peut-être des machines, mais il y a beaucoup d'humains aussi.
Oui. Dans le fond, tout ce qui est à ne pas mettre dans le recyclage, faut pas des trucs qui sont souillés. Tu sais, une boîte de pizza avec une petite tache, ça peut faire, sauf que si on arrive, puis...
toute la sauce est tombée dedans,
ça marche pas.
C'est le gros bon sens.
Oui. Les essuie-tout, les mouchoirs, la vaisselle en carton non plus. Puis, tu sais, à la ville, ils nous ont dit que, dans le fond, il y avait même des couches, des boyaux d'arrosage, des tuyaux de balayeuse, des tissus, des vêtements qui se ramassaient là. Ça n'a pas d'affaire, là.
Ouais.
Donc, ce qui va à l'éco-centre maintenant. L'éco-centre, c'est quelque chose qui est un peu méconnu. En fait, même moi, j'en ai appris hier en faisant ma recherche. C'est pas un dépotoir, un éco-centre, mais une autre façon de revaloriser que la collecte dans le fond, hebdomadaire. Gratuitement, les citoyens peuvent aller porter 3 mètres cubes par année, par adresse. Et puis, s'ils veulent se rendre jusqu'à 6, ils peuvent payer, je pense, c'est 30$ du mètre cube de plus.
OK.
Bien sûr, faut pas jeter les déchets dangereux dans les ordures ménagères ou les égouts. Donc, faut aller porter ça à l'éco-centre. Je peux penser, mettons, à des bouteilles de propane, des extincteurs, des batteries, des ampoules fluocompactes, toutes des choses que si on essaie de les brûler, là, ça va causer des problèmes. Surtout les bouteilles de propane, là, ça a comme pas de sens. Ce qui est corrosif.
Pourtant, j'imagine qu'il en retrouve, malheureusement.
Oui, il en retrouve, puis ça crée des problèmes. Là.
Ben oui.
Donc, tout ce qui est corrosif, inflammable, toxique, explosif, faut que ça aille absolument à l'éco-centre. Les matériaux de construction, briques, pierres, plâtre, dans le fond, clous et vis, là, éco-centre. Le bois, les branches, les souches. Je pense aussi au matériel long, parce que ça crée des problèmes sur les lignes de tri, là. Donc, les câbles électriques, cordes à linge, broches métalliques, là, ça peut créer des blessures aussi aux employés, là, aux travailleurs. Le matériel électronique, là, le e-waste qu'on appelle, les téléphones, les ordinateurs, la télévision, imprimantes, ne mettez pas ça dans vos bacs, ni recycler, ni la poubelle, parce que, en fait, tout ce qu'on brûle, on va le respirer après, puis ça contient des métaux toxiques, là, comme du mercure.
Pas plus qu'on veut pas ça à l'incinérateur non plus.
C'est ça, c'est exactement ça. Les pièces de véhicules, là.
Mais
les...
ça, c'est, oui. Ces trucs électroniques-là, souvent, si on va, je pense, aux les ordinateurs, il y a certains endroits aussi, si on ne peut pas aller à l'éco-centre, ouais. Bureau, en gros, il y a des points où on peut, qui ramassent nos objets, oui. Qui en disposent de façon un peu plus écologique, peut-être.
Puis ça, les citoyens paient déjà comme une espèce de taxe. Là. Je sais que dans les circulaires qu'on reçoit, là, ils parlent de l'éco-taxe. Là. Mais c'est justement pour ça. C'est justement pour que, dans le fond, c'est le traitement de ces matières-là soit fait. On paie déjà, tant qu'à faire, on va s'en servir. C'est ça, les pièces de véhicule aussi. Quand j'ai fait la visite de l'incinérateur, là, il y avait des roues, la jante, le rime, là, en tout cas, le rime de roue qui était au fond du four. Et puis, ça brûle pas, là. Même chose pour les batteries de voiture, c'est polluant. Puis si on les brûle, ça l'est d'autant plus. Puis les pots de peinture, si une canne de peinture est vide, là, on peut la jeter. Pas la recycler parce que ça se recyclera pas, mais s'il reste de la peinture ou de l'huile, ouais. C'est important de l'amener à l'éco-centre.
OK. Et là, je l'ai abordé tout à l'heure, mais question plus pointue, qu'est-ce qu'on fait avec le compostage? Comment on pourrait... La ville pas très proactive, il me semble, de ce côté-là, avec la valorisation des matières résiduelles.
La ville,
organique,
ouais, c'est ça, les matières brunes. Dans le fond, la ville est en train de mijoter son plan. Là. Okay. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent mettre en place une usine de biométhanisation. Okay. Ça devrait arriver à peu près en 2022. Je ne sais pas si la date est encore à jour. Là. Par contre, en attendant, le mouvement, là, dans le fond, ce qu'ils prônent, c'est de quand même faire du compostage domestique. Donc, vous avez les matières vertes, qui sont les feuilles d'arbres, le gazon, toutes ces affaires-là, qui vont être mélangées avec des matériaux bruns. Donc, ça, c'est les restants de cuisine. Et puis, ça va faire du compost, qui est un fertilisant qu'on peut mettre dans son jardin. Faut absolument pas mettre de viande, de gras, de cendres, parce que ça va créer des problèmes avec le compostage, là, soit des problèmes d'odeur ou...
Des petites bestioles indésirables, peut-être.
Ouais. Puis, il y a aussi le compostage collectif. Je sais que Craig Bitume installe des compostières, sauf que les listes d'attente sont quand même assez longues. Donc, c'est pareil au compostage domestique, mais avec un composteur plus gros.
Il y a toutes sortes maintenant d'objets là, qui a des poubelles à compost, qui, de toutes sortes, si on est au centre-ville, où ça peut être adapté à sa terrasse aussi.
Oui, on peut même en faire à l'intérieur, en fait, avec du lombricompostage. Ça, c'est pour les plus motivés, là. ça permet de faire du compost d'hiver. Moi, pour mon compost d'hiver, ce que je fais, c'est que je mets dans une espèce de un pot de litière à chat, là, une grosse chaudière qui se referme, et puis j'envoie ça dehors, puis ça gèle. Puis au printemps, je peux refaire mon compost avec ce que j'ai fait pendant l'hiver.
C'est merveilleux. Mathieu, parce que là, on va parler à Yvan dans quelques secondes. En terminant, zéro déchet, c'est une affaire au... Une affaire personnelle, mais ça pourrait être une affaire de la ville un peu plus.
Oui,
c'est un peu
c'est
ça,
ça
que vous dites aux amis
oui,
de la
oui,
Terre.
Oui, tout à fait. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que la gestion de la ville devrait faire passer la gestion des matières résiduelles à la gestion écologique des ressources. On aimerait ça que la ville devienne un leader en approche environnementale et puis que, dans le fond, sur ses installations et avec ses travailleurs, que la ville essaie de produire le moins de déchets possible. La ville devrait aussi accompagner ses résidents vicieux à réduire leur empreinte écologique individuelle et collective. On pourrait même penser à faire le développement d'une grappe industrielle de remise en marché des matières premières. Encore une fois, la ville deviendrait leader et puis inspirerait ce qui est autour. On pourrait créer une nouvelle économie basée sur autre chose que le tourisme et le divertissement à Québec. Puis la ville aussi, pour devenir zéro déchet, aurait le devoir d'éducation, de sensibilisation de ses citoyens à la réduction des déchets. Dans le fond, conscientiser qu'on respire ce qu'on jette.
OK. Ben merci, Mathieu. Je vais parler d'un point de vue plus technique à Yvan Ouellet, qui est chimiste. On parlait de tout, il y a toutes ces choses là, qui se retrouvent à l'incinérateur, parfois des pneus, parfois des appareils électroniques. Alors, les déchets, explique-nous, là, mais les déchets se transforment par l'incinération en produits toxiques. Explique-nous un peu le processus de l'incinérateur.
C'est ça.
Attends,
le
juste une seconde,
mouvement
voilà.
Zéro déchet, on pourrait partir un mouvement zéro toxique finalement, parce que, comme disait Mathieu tout à l'heure, rien ne se perd, rien ne se crée. Et l'idée de l'incinération, on dit que c'est pour diminuer le volume. C'est un peu contradictoire, mais en réalité, on augmente le volume. Ce qu'on fait, c'est qu'on transforme effectivement la matière. On prend des solides et par la combustion, on les transforme en gaz. Alors, le 300 000 tonnes, moins ce qui n'est pas brûlable, mais le 300 000 tonnes qui va à l'incinérateur va se retrouver dans l'air, sauf la partie non brûlée. Donc, on a des millions de kilogrammes par année de gaz qui sortent des quatre cheminées de l'incinérateur.
C'est pas le fun ce que tu dis là. On n'aime pas ça. On y pense pas. Une chance qu'on y pense pas tous les jours.
S'il n'y avait pas d'incinérateur, je ne serais pas ici. Je suis venu ici pour en parler. Donc, je suis aussi résident du quartier Mézeray.
Ouais, ben là, vous avez une problématique bien particulière.
En plus, je suis à 500 mètres de l'incinérateur. On dit que les émanations vont être surtout entre 0,5 km et 5 km.
Ça voyage pas tant, donc, mais quand même.
Il y a une partie qui va aller dans la haute atmosphère, probablement.
Ce qui n'est pas bon non plus, de toute façon.
Oui,
c'est ce qui n'est pas mieux pour l'écologie.
Et les émanations ou les contaminants, on les respire pas nécessairement quotidiennement, mais hier, je suis passé sous le panache et j'ai senti l'odeur vers 6h moins 20, sur la 3e avenue, entre la 8 et la 9.
Mais là, excuse-moi, j'ai une question, parce qu'on est en 2018, là, l'incinérateur, on parle de quoi? Là, est-ce que c'est de la haute technologie? Là, parce qu'il me semble qu'on pourrait, je ne sais pas si ça va assez loin dans la technologie.
Ça ressemble à de l'industrie lourde en pleine ville.
Ouais.
Si on regarde à l'intérieur, c'est gigantesque, c'est grand, c'est très grand. Il y a quand même de la place pour circuler entre les différents équipements. C'est quand même, on voit qu'il y a des colonnes là-dedans qui vont servir à épurer ou mélanger les gaz qui peuvent avoir plusieurs dizaines de pieds de haut. Donc, c'est une technologie quand même qui date des années 70, qui ont été rénovées. On a renouvelé l'équipement en partie. On essaie de modifier le système actuellement de charbon activé. Ce qui est haute technologie, je croirais que c'est plutôt la chimie très complexe qui se produit dans l'incinérateur, où on ne peut pas prédire toutes les réactions qui se passent, parce qu'il y a de nouveaux plastiques, par exemple, il y a des nouveaux polymères. Et tout ça, soumis à une température donnée, va donner quoi? Et il y a aussi des interactions entre ces molécules-là. Alors, il y a probablement des centaines, pour ne pas dire des milliers de molécules qui sortent des cheminées.
Ouais.
On en mesure quand même un certain nombre.
D'un point de vue chimique, là, allons-y, tiens, avec l'aspect plus technique de ça. On dit que l'incinérateur augmente le volume, vrai ou faux?
Bien, c'est ça. Ça augmente le volume parce qu'un gaz, on a appris ça en chimie au secondaire, un gaz occupe plus d'espace qu'un solide.
Oui, c'est ça, je me souviens de ça.
Mais déjà, sur le plan de... on ne parle pas de la conservation de la matière. La matière se transforme. Mais sur le plan du volume, on augmente le volume. Mais c'est sûr que le volume apparent diminue. On semble faire disparaître ça. Hein? Ça rentre, il en rentre 300 000 tonnes, puis il en sort seulement, soit 60 ou 70 000 tonnes qui ne brûlent pas. Donc, on a l'impression qu'on a évaporé, fait disparaître, comme un magicien, tout ce volume de déchets. En réalité, on pollue l'environnement. On met des gaz dans l'environnement. Là, ce dont on va parler tout à l'heure, c'est que ces gaz-là peuvent se retrouver sur le sol parce qu'ils vont aller dans l'humidité de l'air avec les pluies, peuvent retomber. Ils vont retomber.
Et là, je pose la question à vous deux, là, Yvan ou Mathieu, mais est-ce que ce serait pas mieux d'incinérer? Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'on incinérer ou enfouir plutôt?
C'est la grande question. Il y a un débat
scientifique. Parce que là, tu parlais de solide, gazeux, si on enfouit...
Dans un monde idéal, on enfouirait de façon sélective les métaux avec les métaux, les plastiques avec les plastiques. On ferait des couches qu'on pourrait, avec des techniques de nouvelles connaissances scientifiques, on pourrait éventuellement aller sortir ces métaux-là et essayer de les purifier, de les extraire. On conserverait la matière probablement très longtemps. De cette façon-là. Donc, on ferait un enfouissement sélectif. Ça, c'est une possibilité plutôt que d'incinérer. Mais le problème est que ça prend énormément d'espace et que le site d'enfouissement de Québec, on l'a placé à une distance importante de Québec, avec une grosse côte à monter aussi.
Oui. Et là, tout à l'heure, Mathieu nous disait, il y a des gens qui mettent dans les poubelles des objets électroniques, ça peut être des caoutchoucs. La ville, elle, à partir du moment où ça arrive à l'incinérateur, là, il n'y a pas de tri, là, si je comprends bien. On brûle tout ce que le citoyen a mis.
Ce qui ne brûleront pas, c'est ce qui, par exemple, ils ont trouvé il n'y a pas longtemps une baignoire en fonte. Bien, ils ont pu, avec le crochet, il y a une espèce de grappin qui met les déchets dans la fosse. Alors, ils ont pu récupérer la baignoire en question. Mais je sais que à la réunion publique du comité de vigilance, il y a quelques mois, on a dit publiquement que des pneus qui sont entrés, qui ont brûlé, alors que c'est une matière qu'on ne devrait pas brûler.
C'est un peu
brûler.
Notre responsabilité aussi, comme citoyen, de faire vraiment attention, comme Mathieu disait, de ne pas tout mettre. Là.
Ben, il y a un contrôle de la radioactivité qui se fait. Ça, c'est clair. Et par contre, tout le reste, il n'y a pas de tri, ou du moins, il n'y a pas de contrôle. On contrôlerait un camion sur 100 pour voir ce qu'il contient, par exemple. Non, c'est tout ce qui rentre va brûler finalement.
Et est-ce qu'on fait des tests fréquemment à l'incinérateur?
Ben, c'est ça qui est un peu controversé, dans le sens que les tests durent 24 heures dans une année. Donc, c'est deux périodes de 12 heures, 12 heures en juin, 12 heures en octobre, pendant lesquelles on mesure certaines substances parmi lesquelles il y a des substances qui sont quand même assez toxiques, comme le dioxyde et furane et le mercure. Mais ces campagnes, à mon avis, sont insuffisantes, devraient être répétées plus souvent durant l'année. De façon... En fait,
Parce que là, on fait quoi, l'été et l'hiver? J'imagine que c'est pas la même chose aussi.
Grosso modo, c'est été et hiver. L'idée là, des tests, c'est on fait pas ça pour s'amuser. C'est vraiment des tests qui assurent qui nous assure de la performance finale du processus. Est-ce qu'il y a des contaminants qui ressortent en quantité telle que la norme est dépassée? Là, on parle de normes réglementaires du ministère de l'Environnement. Alors, l'idée, c'est qu'en faisant deux tests par année, c'est un peu comme le test antidopage, si on teste des gens une fois de temps en temps, on ne réussira pas à trouver des drogues dans leur sang ou dans leur urine. Alors, si on les teste quotidiennement, il y a moins de chances qu'ils...
Puis quels sont les risques pour la santé, Yvan? Tu parlais de mercure, là, ça fait peur. Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Ben, on doit surtout... je crois qu'on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter ou on peut s'inquiéter. Okay? Donc, parce que des études dans les années, je dirais 2008, dans ces années-là, et par la suite, on a démontré qu'il y avait des excès de cancer à proximité des incinérateurs. Ce ne sont peut-être pas toutes des associations causales. On a parlé aussi de possibilité ou même de probabilité de malformation. Là, on ne parle pas d'un effet à long terme, 20 ou 30 ans plus tard. On parle d'un effet 3 mois plus tard, dans les 3 premiers mois de la grossesse. Donc, est-ce que ces études font la preuve scientifique absolue qu'il y a des risques à la santé pour tous les incinérateurs? La réponse est évidemment non. Ce sont des indices qui démontrent qu'on devrait peut-être penser un jour appliquer le principe de précaution.
Ouais. Je vois le temps qui file. Yvan, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion là pour faire une petit, ben, Mathieu, Yvan, là, pour conclure ce segment-là là, du regroupement Zéro Déchet. Est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce qu'on peut faire partie du regroupement? Est-ce qu'il y aura des auditions? Comment ça fonctionne?
Oui, en fait, nous, on a monté un site web qui s'appelle donc https://villezerodéchet.org. Et puis, on incite les citoyens, dans le fond, à venir signer la déclaration d'appui. Nous, ça va nous donner les leviers pour être capable de continuer peut-être au niveau politique municipal ou provincial pour avoir plus d'impact, là. Montrer dans le fond que on a réussi à interpeller les citoyens puis qu'ils sont sensibilisés au message.
Ouais. Est-ce que la ville de Québec est particulière? Est-ce que c'est des problématiques qu'on retrouve dans toutes les grandes villes, j'ai l'impression?
Il y a des villes qui le sont déjà, zéro déchet. Il y a même Lévis là, qui tend vers zéro déchet. Il y a Victoriaville qui est en avance, là, sinon l'arrondissement Rosemont à Montréal. Donc, c'est quelque chose qui est en marche. Là. C'est quelque
mouvance,
chose qu'on les gens vont embarquer.
Yvan?
Moi, je crois que l'incinération n'est pas sans conséquences. Alors, si les citoyens croient qu'il n'y a pas de conséquences à l'incinération, bien, c'est une chose. S'ils croient que l'incinération a des conséquences sur leur environnement, sur leur santé, bien, ils peuvent adhérer au mouvement zéro déchet.
Mais là, tu nous as bien montré d'un point de vue scientifique, chimique, que c'est pas l'idéal, l'incinération.
Il y a un potentiel élevé là, de risque à la santé, je dirais. Là. Je dis potentiel. Là. C'est pas encore démontré que les gens de Limoilou ou de Québec ont un risque accru à cause de l'incinérateur, mais il y a un risque potentiel.
Tous les noms de produits toxiques là, qu'on voit défiler. En tout cas, merci beaucoup, Yvan Ouellet, chimiste. Merci, Mathieu Goulet. C'est un beau portrait de ce que la ville de demain pourra être, zéro déchet. Alors, sur ce, il me reste une petite minute pour remercier mes invités d'aujourd'hui. Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval. Elle est co-présidente du symposium qui commence demain, prévenir le tsunami numérique. Ça, c'est un autre gros défi pour l'emploi dans la capitale nationale, un autre défi à surmonter, le numérique. Mais ça semble bien parti avec la formation. On a parlé sport, bien sûr, avec Jean Carrier. C'est la grande messe du football en fin de semaine, dimanche. Alors, préparez vos nachos et vos... les ailes de poulet, les côtes levées, en tout cas. On parlait du Mois Multi et du théâtre Rue d'Ingénierie qui présente son spectacle saison complète. Ça se poursuit encore pour quelques jours. Je vous souhaite une très bonne journée. On se donne rendez-vous, nous, demain, à compter de 6h30.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.
Mesdames, Mesdemoiselles, bonjour. Mardi, second jour de votre semaine de beauté. Il s'agit ce matin de l'affinement des genoux et des cuisses. Un premier exercice pour lequel vous allez vous allonger à plat ventre sur votre tapis, très vite. Ensuite, pliez alternativement les jambes. Une fois allongés, les bras fléchis, les avant-bras sous le menton, vous pliez très vite avec nous. D'abord la jambe droite, ensuite la gauche, la droite et la gauche. La droite, la gauche, la droite et la gauche. Vous pliez et vous venez frapper la partie postérieure de la cuisse avec le talon correspondant. Vous respirez bien à fond, deux ou trois fois. Vous terminez par un peu d'automassage du genou et de la cuisse, par vibration toujours entre le pouce et les autres doigts. Ensuite, bien entendu, la douche, tiède ou froide, et la bonne humeur pour toute la journée.
CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale.
Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative.
Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles.
4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010.
Ils ont choisi d'appuyer CKRL.
La boussole, l'ampli de Québec. Diffusion culturelle de Lévis-Anglicane, Centre d'art La Chapelle, Carrefour d'éducation à la solidarité internationale Québec.
Maintenant, c'est à notre tour de les encourager.
En 1997, c'est le début de l'université et je me retrouve devant un babillard à essayer de me repérer dans l'université et de trouver le local où il faut aller.
C'est dur d'avouer que ton objectif est réellement de faire carrière en art.
Cooksasville, un duo choc.
Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv.
À Québec, février rime avec Moi Multi. Et les festivités commencent ce vendredi. Au programme, sculpture cinétique géante, musique électronique avant-gardiste, robots nourriciers et nuits endiablées. Et c'est la dernière chance de se procurer le passeport pour l'ensemble du festival. Prépare-toi, Québec. Le Mois Multi, éveille tes sens du 2 au 25 février. moimulti.org. Denis Lelièvre, Jacques Bégin, Hubert Tremblay, Dominique Plante et Gilles Chaumel vous proposent une sélection de musique jazz tout azimut à l'émission Midi Jazz de lundi à vendredi. Une présentation d'Audiolight. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolight.qc.ca.
Le 7e art est à l'honneur durant une heure. Tous les mardis, 18h30, en direct de la Nîmes-Cazy, au 811 rue Saint-Jean. Ici Pierre Blais. Toute l'équipe de Situation Critique vous y attend chaque semaine.